France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 4 avril. Bonjour à tous. Bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Carlos Ghosn, de nouveau en garde à vue, un mois après sa libération sous caution. L'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan est désormais dans le collimateur de la justice japonaise pour des soupçons d'enrichissement personnel. Carlos Ghosn dénonce une volonté de le briser. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Les excuses du président Bouteflika et la détermination intacte du peuple algérien. Le premier grand débat des européennes, c'est ce soir sur France Inter. Une nouvelle journée de grève contre la loi Blanquer dans les écoles et tous les implants mammaires texturés sont désormais interdits en France en raison d'un risque de cancer.
Les invités de France Inter ce matin, bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À 7h50.
On va se faire du bien avec un éloge de la modestie, des derniers de cordée et même des échecs de tous ceux qui n'ont pas les codes et que l'art, la culture intimide, l'écrivaine Lydie Salvert a passé une nuit seule au musée Picasso à contempler L'homme qui marche de Giacometti et elle est ce matin à 7h50 dans votre radio.
À tout à l'heure et à 8h20, c'est la fin aujourd'hui du grand débat national bouclé par le président de la République en Corse. La vieille démocratie représentative, la nôtre, sera-t-elle à la hauteur des aspirations des citoyens? On pose tout à l'heure la question au philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert.
France Inter.
Le répit aura été de courte durée. Un mois à peine après avoir été libéré, Carlos Ghosn est de nouveau entre les mains de la justice japonaise qui le soupçonne d'avoir utilisé des fonds de Nissan et de Renault pour s'enrichir personnellement via des transferts d'argent à un partenaire commercial à Oman. Une arrestation que Carlos Ghosn a immédiatement qualifiée de révoltante et arbitraire. Frédéric Charles est à Tokyo pour France Inter.
Les enquêteurs du procureur de Tokyo sont arrivés au domicile de Carlos Ghosn peu avant 6h du matin, heure locale. Une heure plus tard, une bâche grise a été dressée devant l'immeuble. Les chaînes de télévision ont diffusé en direct les images d'un véhicule quittant peu après les lieux. Carlos Ghosn était à bord, a confirmé un journaliste. Le procureur de Tokyo a maintenant 48 heures pour décider s'il inculpe Carlos Ghosn une quatrième fois, s'il le remet en prison ou s'il le relâche dans le cadre de sa mise en liberté sous caution. Mon arrestation ce matin est révoltante et arbitraire. Pourquoi m'arrêter sinon pour me briser? Dit Carlos Ghosn dans une déclaration. Cette réarrestation est extrêmement rare. Carlos Ghosn est cette fois-ci soupçonné d'avoir utilisé des fonds de Nissan et de Renault pour des transferts d'argent à un distributeur de véhicules Nissan à Oman. Une partie des montants lui serait revenue. Tokyo, Frédéric Charles, RFI. Pour France Inter.
Et les ennuis décidément s'accumulent pour Carlos Ghosn. Hier, Renault a refusé d'accorder à l'ex-PDG la retraite chapeau de 770 000 euros annuels à laquelle il pouvait prétendre. Le constructeur automobile estimant qu'après sa démission, il ne remplissait plus les conditions nécessaires. Ces retraites chapeau dont les montants suscitent souvent la polémique, le gouvernement envisage de les limiter, c'est ce que révèlent les Échos ce matin. Une ordonnance sera rédigée d'ici cet été pour plafonner les retraites des dirigeants des grandes entreprises à 30% de leurs revenus ou imposer un plafond en valeur absolue. Et puisque l'on parle encadrement, c'est le retour à Paris de l'encadrement des loyers. Le décret est signé, affirme ce matin la ministre de la Cohésion des Territoires.
Il est 7h04, Agnès. Au lendemain de sa démission, Abdelaziz Bouteflika demande pardon aux Algériens.
Dans une lettre d'adieu publiée par l'agence officielle, le vieux président assure avoir gouverné avec sincérité et loyauté et exhorte les Algériens à rester unis. Lui indique qu'il va se retirer chez lui. L'avenir du pays est encore très incertain. Les Algériens ont prévu de manifester à nouveau vendredi pour montrer leur détermination. Une détermination soutenue hier soir à Paris par la chanteuse algérienne Swad Massi avec ce concert intitulé « Un seul héros, le peuple » et qui a pris, Delphine Evenou, un tournant très politique.
En arrivant dans sa loge, Swad Massi a les bras chargés de fleurs pour les offrir aux participants, comme les manifestants algériens ont offert des fleurs aux forces de l'ordre en signe de paix. Et avant de monter sur scène, la chanteuse garde en tête une image de ces marches qui ont rythmé les vendredis en Algérie depuis le 22 février.
Le sourire des manifestants dans la rue qui souriaient à l'avenir. Cette oppression ne nous a pas abîmés.
Dans la salle, des drapeaux algériens et un désir commun.
Ça veut dire un changement radical.
Swad Massi, pendant une heure et demie, traduit en chanson les espoirs, la joie, la colère de ses concitoyens. À la fin du concert, en guise de rappel, c'est un échange qui s'installe. Talima découvre la politique avec enthousiasme.
Avant, on ne s'intéressait même pas à la politique algérienne, en fait, parce qu'on savait déjà qui allait être président. C'est une nouvelle ère qui commence.
La discussion alterne entre questions.
Qu'est-ce que c'est que l'après Bouteflika ?
Et avertissements.
On vient de fêter la première victoire, mais ce n'est pas suffisant.
Les spectateurs repartent remplis d'espoir.
J'espère qu'aujourd'hui, les autres clans, ils vont entendre la musique de Saad Massi pour partir. Peut-être qu'ils attendent que ça, comme ça ils partent dans la musique.
La soirée s'achève sur un rendez-vous. Dimanche, place de la République à Paris pour maintenir la pression.
Reportage signé Delphine Evenou. Incertain aussi l'avenir du Brexit. Les députés britanniques ont adopté hier à une voix près une proposition de loi visant à empêcher une sortie sans accord de l'Union européenne, mettant ainsi un peu plus la pression sur Theresa May pour qu'elle trouve un compromis. Et selon le quotidien The Sun, la première ministre britannique pourrait demander à l'Union européenne un délai de 9 mois supplémentaires pour arriver à un accord. Quid alors des députés britanniques au Parlement européen de Strasbourg? C'est l'une des nombreuses questions qui restent en suspens. Alors qu'en France, le premier grand temps fort de la campagne pour les élections européennes a lieu ce soir sur France Inter et sur France 2. Un débat avec les 12 têtes de liste et des matchs dans le match, Yael Gauze.
Premier enjeu, premier match, celui de la notoriété. Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde sont des vieux routards de la politique, mais pour beaucoup, ce sera un baptême du feu. Premier débat en prime time pour l'insoumise Manon Aubry et pour les deux philosophes de la soirée, Raphaël Glucksmann et François-Xavier Bellamy. Le match à gauche, ensuite, sur les 12 pupitres, 5 têtes de liste en concurrence sur un même électorat. Le tirage au sort a placé Manon Aubry à l'extrême gauche et Glucksmann à l'extrême droite du plateau. Au centre, on trouve Nathalie Loiseau, l'ex-ministre d'Emmanuel Macron. Elle sera la cible, avec le risque d'un tous contre elle, même dans le camp pro-européen. Nathalie Loiseau, géographiquement bien encadrée, d'un côté par Florian Philippot, ex-RN, et de l'autre par Jordan Bardella, nouvelle coqueluche de Marine Le Pen. Deuxième, en partant de la gauche, François-Xavier Bellamy, celui grâce à qui la droite espère rebondir. Il joue gros ce soir, tout comme les deux partisans du Frexit, François Asselineau et Florian Philippot, qui tenteront de faire passer le RN pour un parti du système.
Et cette grande soirée est à suivre sur France Inter dès 20h. Et les Corses, qu'attendent-ils du grand débat national? Dernière étape aujourd'hui du marathon entamé par Emmanuel Macron dans l'heure, il y a 2 mois et demi. Cette dernière étape s'annonce particulièrement compliquée avec des élus nationalistes qui boycottent la rencontre avec le chef de l'État et qui appellent toujours à une journée île morte. Nouvelle grève aussi aujourd'hui dans l'éducation nationale contre la réforme portée par Jean-Michel Blanquer. Le mouvement s'annonce très suivi dans le primaire avec la moitié des écoles fermées à Paris, selon le syndicat SNUPP-FSU. Pour tenter de convaincre les parents du bien fondé de leur mouvement, des réunions ont été organisées ces derniers jours avec les parents dans les écoles. Faustine Calmel a assisté à l'une d'entre elles dans une école du 18e arrondissement. Reportage.
Olivier arrive en trottinant derrière son petit garçon.
Savoir un peu à quelle sauce l'éducation nationale va être mangée et à quel point ça peut impacter nos enfants.
Et après 2 heures de discussion avec les enseignants, directrices et syndicats.
En fait, je me suis rendu compte que c'était quand même très très flou. Toute l'explication qu'on a eue était, dans le pire, il peut se passer ça, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, c'est très très dur de se placer vis-à-vis de ce texte de loi.
Les questions s'attardent sur le statut des directeurs, la place des parents dans les conseils d'école, le nombre d'enfants dont devront s'occuper les auxiliaires de vie scolaire. La réunion sert aussi à organiser une mobilisation commune à laquelle Zélia souhaite participer.
J'ai proposé de traduire dans plusieurs langues donc les tracts. Si je peux assister aux manifestations, je le ferai. Si je peux me déplacer dans un ministère quelconque ou me faire entendre, ben oui, je le ferai.
Chacun est appelé à interpeller son député et son sénateur. Après plusieurs journées de grève, les enseignants cherchent un relais avec l'appui des parents, indispensable pour Elisabeth Coutas du SNUIPP-FSU.
On sait que les enseignants, on n'y arrivera pas tout seul et qu'on a besoin des parents. On pense qu'ils pèsent fort parce que c'est les usagers du service public d'éducation et donc ils ont leur mot à dire aussi.
Des manifestations parents-enseignants et une journée école morte sont déjà prévues la semaine prochaine.
Un rebondissement dans l'enquête sur l'accident d'un corps scolaire au passage à niveau de Millas en décembre 2017. 6 collégiens avaient été tués. Les avocats de plusieurs familles demandent des poursuites à l'encontre du médecin généraliste qui prescrivait depuis des années à la conductrice un puissant somnifère qui provoque des somnolences. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Parce qu'il comporte certains risques de cancer. Tous les implants mammaires rugueux sont désormais interdits en France. La décision sera prise officiellement demain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Aujourd'hui, 500 000 femmes sont porteuses d'implants, 20% pour des raisons médicales, 80% pour des raisons esthétiques. Cette interdiction intervient, Daniel Messager, après une multiplication de cas de lymphome.
Depuis 2011, les cas de lymphome anaplasique à grandes cellules ont augmenté de façon significative en France. 56 ont été déclarés à l'Agence du médicament et des produits de santé, la plupart impliquant un implant mammaire texturé, sans doute à l'origine d'une inflammation chronique qui favorise ce type de cancer, certes rare mais agressif. Joëlle Manigati, une patiente auteure d'un blog des porteuses d'implants mammaires, espérait cette interdiction.
C'est une excellente nouvelle et j'ai fait partie du comité qui a auditionné les fabricants, les patientes, les chirurgiens. C'est ce que nous avions préconisé. J'aurais aimé qu'une décision soit prise un peu plus tôt. Il fallait quand même avoir suffisamment de preuves médicales et scientifiques et nous étions vraiment arrivés à un stade où il fallait faire quelque chose.
Des médecins, en revanche, estiment qu'il n'y a pas assez de données pour valider cette interdiction. Sébastien Garçon, président de la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens.
C'est un peu d'incompréhension, effectivement. 85% des patientes implantées en France ont une prothèse dite texturée. Ça risque de générer une panique chez nos patientes. Pour l'avenir, en particulier en reconstruction, cela va compliquer la prise en charge pour ces patientes-là.
En plus de cette interdiction d'utilisation, les fabricants doivent procéder dès demain au retrait de ces implants en tout lieu où ils se trouvent.
Enfin, les championnats du monde de hockey sur glace féminin débutent aujourd'hui en Finlande. Et pour la première fois de l'histoire, une équipe française y participe. Un sport encore peu pratiqué dans notre pays, mais qui séduit de plus en plus malgré cette image de sport violent et très masculin. Guillaume Batin est à Helsinki pour France Inter.
La capitaine de l'équipe de France, Marion Almoz, est née à Chambéry, dans une famille de hockeyeurs. Mais faute d'équipe féminine, elle est condamnée à jouer avec les garçons de 4 à 18 ans, avant d'être repérée par un club canadien.
On aimerait que les mentalités changent, dire que le hockey c'est aussi pour les filles. On entend souvent aussi que c'est un sport violent, alors que pas du tout, on est bien protégé. C'est sûr que c'est un sport de contact, mais moi c'est vraiment la vitesse du jeu qui me passionne. Et puis c'est sûr que c'est aussi un sport d'équipe, donc tous ces moments d'équipe qu'on partage, ça aussi c'est ce qui me fait aimer tant ce sport.
Mais la France accuse encore beaucoup de retard sur les pays scandinaves, d'après le sélectionneur des Bleus, Grégory Tarlet.
On est loin des pays scandinaves en termes de société. Ça c'est ce que je ressens quand je vois par exemple ici en Finlande comment ça se passe, la place du sport féminin. Et des compétitions féminines telles que celle-ci, là, comme un championnat du monde dans le pays de la Finlande. J'aurais tendance à croire que c'est la société qui impacte le sport. Je trouve que le sport féminin, c'est le reflet de la société et de la place de la femme dans la vie professionnelle, à l'usine, à l'école, par exemple.
Le hockey sur glace, c'est l'un des sports qui séduit de plus en plus de jeunes femmes en France. Elles sont presque deux fois plus de pratiquantes qu'il y a 10 ans. Helsinki, Guillaume Batin, France Inter.
Et c'est ainsi que s'achève le journal d'Agnès Soubiran. Merci Agnès.